Voilà, bonsoir à tous. J'ai dû me faire un petit peu surprendre par les fraîcheurs de soir, hein, mais il reste encore assez de voix pour que vous m'entendiez, même si vous aurez droit à une voix comme elle est. Voilà. Ce soir, j'aimerais partager avec vous, il faut savoir s'adapter, hein, le micro est là pour ça, il doit être polyvalent. Et j'aimerais en particulier avoir avec vous un passage qui fait parler beaucoup de lui. Vous allez voir, c'est le type même de récit qu'on présente déjà aux enfants dans les gibes et compagnie. Il y a de l'animation, il y a du spectacle, il y a aussi un petit peu le côté spectaculaire. Alors, ça, il ne faut pas le louper, celui-là. Les chrétiens connaissent tous le récit que je vais prendre, sauf que moi, je vais un petit peu le sectionner. Vous verrez, je vous ferai grâce que de quelques passages dans le récit d'un quelqu'un qui a affronté quelqu'un qui était beaucoup plus fort que lui. Est-ce que vous voyez de qui je parle ? Oui, allez-y, n'ayez pas peur. Voilà. Alors, qui n'a pas entendu parler de David et Goliath ? Seulement, il y a une chose que je réalise et pour laquelle j'ai béni Dieu, c'est que dans l'histoire de David et Goliath, il y a ce qui a été vu, le spectaculaire. Et puis, heureusement, la parole de Dieu me montre ce qui n'était pas vu, ce qui était caché. Ça me semble très important de dire ce soir que dans toute vie chrétienne, il y a la loi de l'iceberg. Vous savez qu'un iceberg, on ne voit que 10% et 90% est caché sous la surface de l'eau. Une vie chrétienne équilibrée, c'est une vie qui est aussi intéressante que l'iceberg. Qu'on puisse n'en voir que 10%, sachant qu'il y en a 90% qui sont cachés, mais qui existent bien. Une relation avec Dieu. Alors, je me permets maintenant d'aller dans le premier livre de Samuel, chapitre 17. Et on va lire, alors vous allez voir, je vais faire des petites sections, les versets 20 à 24. David se leva de bon matin. Il laissa les brebis à un gardien, prit sa charge et partit comme Isaïe, son père, le lui avait ordonné. Lorsqu'il arriva au camp, l'armée était en marche pour se ranger en bataille et pousser des cris de guerre. Israël et les Philistins se formèrent en bataille, armée contre armée. David remit les objets qu'il portait entre les mains du gardien des bagages et courut vers les rangs de l'armée. Aussitôt arrivé, il demanda à ses frères comment ils se portaient. Tandis qu'il leur parlait, voici, le Philistin de Gath, nommé Goliath, s'avança entre les deux armées, hors des rangs des Philistins. Il tint les mêmes discours que précédemment, et David les entendit. On continue quand même, je vais jusqu'au verset 27. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme ? C'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses, il lui donnera sa fille, et il affranchira la maison de son père en Israël. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin ? Et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël ? Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant ? Le peuple répétant les mêmes choses, lui dit, c'est ainsi que l'on fera à celui qui le tuera. J'arrête là notre lecture pour la reprendre au verset 34, parce que ça aurait été très long le récit, alors je vais sélectionner les passages sur lesquels je reviendrai. Verset 34, David dit à Saül, « Ton serviteur faisait paître les brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours. Et il en sera du Philistin, de cet incirconcis, comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David dit encore, « L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. » Et Saül dit à David, « Va et que l'Éternel soit avec toi. » Et pour terminer nos lectures, je vais aller au verset 45. David dit au Philistin, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains, je t'abattrai, je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. » Amen. Voilà, on a déjà beaucoup avec tout ce qui a été lu, vous ne trouvez pas, hein? Alors, désolé, vous n'avez pas eu l'élément formidable, la fronde qui part et tout cela, mais comme vous le saviez, ça ne m'a pas posé de problème de rester sur ces autres versets qui sont dans ce passage. La première chose qui m'interpelle concernant David, c'est que s'il y avait eu ce combat, on aurait ignoré de grandes choses de la vie de cet homme. On n'aurait jamais su certaines choses qui s'étaient passées et qui n'avaient eu aucun témoin humain. Car dans le récit qui nous est donné, que David rapporte, on s'aperçoit qu'une partie de sa vie a été vécue dans la solitude. J'ai bien aimé notre frère tout à l'heure quand il disait que parfois dans une foule du métro, eh bien on peut se retrouver tout seul avec le Seigneur dans son cœur et dans la présence de Dieu. Je me réjouis d'ailleurs de ce genre d'expérience. Un jour, un chrétien dans une église où j'étais me disait, « Vous savez, frère, c'est catastrophique. Nous sommes des centaines d'employés dans l'endroit où je travaille. Je me suis renseigné, j'ai cherché, j'ai parlé. Eh bien, tenez-vous bien, je suis le seul chrétien. C'est terrible. » Et moi, je lui ai répondu, « C'est formidable. Parce qu'il y a un chrétien, c'est ce qu'il fallait. » Vous savez, je crois qu'il ne faut pas se faire d'illusions. Je trouve que Dieu est extrêmement adroit pour mettre un chrétien par-ci, par-là, mais il y en a un. Et quand vous mettez un chrétien dans une entreprise, le chef d'entreprise ne se rend pas compte à quel point son entreprise est bénie parce qu'il y a un chrétien dans ses employés. Mais ça, on le garde pour nous, hein. On ne lui dit pas. Mais croyez-moi, là où vous mettez un chrétien, vous ne vous rendez pas compte de ce que vous êtes en train de vivre comme situation, même quand vous êtes tout seul, parce que Dieu est avec vous. Et l'éternité révélera le nombre d'entreprises qui auraient pu avoir des catastrophes, mais comme il y a eu un chrétien, ben Dieu en a-tu compte. Alors David, oui, j'y reviens, ben, il était aussi bien souvent tout seul. Il était tout seul dans son travail qui était d'être berger et de garder les brebis de son père. Une chose qui me frappe, c'est que le récit du combat contre Goliath se passe d'une manière totalement anormale. Parce que finalement, David va se retrouver au contact de Goliath, alors que, premièrement, vous me direz si je me trompe, il n'est pas un combattant. D'accord ? Il ne vient pas pour se battre. Hein, vous avez remarqué ? Il vient pour apporter de la nourriture pour ses frères. Bon, très matériel tout ça, c'est le valet de service. D'ailleurs, quand ses frères le voient arriver, « Ah oui, t'es le petit rejeton, toi, le petit dernier, là. Allez, donne-nous ce que t'as amené à manger, puis retourne à tes affaires. Ici, c'est une affaire de grand. » Et c'est vrai que l'histoire de l'armée d'Israël contre l'armée des Philistins, c'était une histoire de grand. Une histoire d'hommes qui allaient s'affronter, ça fait des chocs. Hein. Et à première vue, David n'avait pas sa place. On lui a fait remarquer d'ailleurs. Alors, je pense déjà à ce grand enseignement de la personnalité de David. C'est que David n'était pas apparemment fait pour des choses qui vont révéler que Dieu, lui, le fait. Je m'explique sur cette phrase. Il y a bien des moments où, en tant que chrétien, les gens se recherchent et disent, voyons voir, qu'est-ce que je suis capable de faire ? Alors je vous dis tout de suite, si vous commencez comme ça dans la vie chrétienne, vous n'allez pas faire grand-chose. Parce qu'à chaque fois que vous voudrez faire quelque chose, il y en a un qui servira des circonstances de votre vie, des gens qui sont autour de vous. Tu t'es vu ? Tu risques pas de faire grand-chose, toi. Alors, bon, je ne suis pas capable, je ne fais rien. Ça aurait pu être l'attitude de David. Parce qu'à aucun moment, on l'a encouragé, dites donc. Vous aimez qu'on vous encourage, quand vous voulez faire quelque chose pour le Seigneur ? C'est plus sympa, hein, entre nous. C'est plus agréable. Mais vous regardez David, il y a des passages que j'ai passés sous vous pourrez les regarder, on ne l'a vraiment pas encouragé. Même le roi, quand il l'a vu, il dit, qu'est-ce qu'on m'amène là ? Oui, oui, tu sais, c'est un jeune homme, il veut se mesurer à Goliath. Et je pense au regard extraordinaire du roi devant cette espèce de rejeton, là, de freluquet, excusez-moi l'expression, qui se présente. D'ailleurs, Saül a une parole terrible quand David va partir pour le combat. Et je l'ai lu parce que je l'entends encore cette parole quand Saül lui dit « Va et que Dieu soit avec toi !» Parce que dans l'état où tu es, il va falloir que Dieu fasse des miracles. Il y a beaucoup de choses derrière cette parole. Hein. Que Dieu soit avec toi. Il y a des moments, quand on vous dit ça, c'est parce que, il faut vraiment que Dieu fasse quelque chose pour toi parce que tu risques pas d'arriver à quelque chose. David était dans cette situation. Et en tant qu'enfant de Dieu, il peut se trouver bien des circonstances dans ma vie où, pour servir Dieu, je vais dire, mais Seigneur, je ne suis pas fait pour ça. J'ai d'ailleurs dit cela à Dieu au tout début de ma vie, quand il m'a appelé au service. Je lui ai dit, non, Seigneur, il y en a d'autres beaucoup mieux faits que moi. Tu devrais en choisir d'autres. Tu m'as dit, c'est moi qui choisis, ce n'est pas toi. Bogne. C'est quand même très clair, n'est-ce pas ? Mais dites-vous bien une chose, c'est que quand Dieu vous demande de faire quelque chose, il vous a choisi. Et c'est trop tard pour donner votre avis. Dieu sait ce qu'il fait. Et alors que nous voyons David, qui donc ne vient pas pour se battre, n'est pas un combattant, eh bien, il arrive au bon moment. Il arrive au moment où un défi, une fois de plus, est lancé contre les hommes qui sont là, pensent que c'est contre eux. C'est curieux comme souvent les êtres humains s'attribuent en quelque sorte les responsabilités et la raison des combats. J'ai connu quelquefois bien des chrétiens qui vivent leur vie chrétienne en disant « Si vous saviez ce que le diable, il m'en veut, oh, il m'attaque tout le temps !» J'ai tendance à dire « Écoutez, occupez-vous un peu moins de ce qu'il fait et contentez-vous de ce que Dieu fait. Vous allez voir, ça change tout. » Parce que nous ne sommes pas là pour arriver à compter tout ce que le diable fait. On perd notre temps, qu'est-ce que vous en pensez ? Laissons-le se débrouiller, il a déjà perdu la partie. Mais par contre, David, il est arrivé au moment où il s'est trouvé avec cette parole de Goliath. Et il a dit quoi ? Quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Et j'aime beaucoup ce petit détail que nous avons lu tout à l'heure. David est arrivé, il s'est approché de l'armée. Et puis le discours qui précédent de tous les jours est revenu. Et il y a un petit mot qui nous dit « David les entendit, les paroles de Goliath. » Il les a entendues. Et il a dit quoi ? Qu'est-ce qu'il dit cet homme ? Qu'est-ce qu'il ose dire ? Une parole que je trouve extraordinaire, c'est que David a tout de suite compris que le problème de Goliath, ce n'était pas de s'attaquer à des hommes, mais de s'attaquer à Dieu. Et je dois dire que c'est une chose qui me sert beaucoup et qui m'a beaucoup servi dans la vie chrétienne. Des fois, nous trouvons des situations difficiles. Nous pouvons nous trouver devant des situations de combat, d'arrogance et d'opposition. Mais ce n'est pas contre moi que ça se passe. C'est contre Dieu, mes amis. Et ça change tout. Parce que si vous vous prenez pour le centre du monde, alors vous dites, on m'en veut à moi. Mais si vous remettez les choses à leur place, quand quelque chose s'oppose à vous, vous dites, Seigneur, t'as vu, ils veulent t'atteindre. Parce que moi, je porte un nom en moi qui est celui de Christ maintenant. Et si on s'attaque à moi, c'est pas à moi qu'on s'attaque. D'ailleurs, finalement, je veux vous dire, je plains les gens qui s'attaquent à moi. Très sincèrement. Ça vous arrive ? Je me dis, mais ils ne savent pas à qui ils s'attaquent. Ce n'est pas à moi qu'ils s'attaquent. Ils s'attaquent à celui qui me défend. Est-ce que vous avez quelqu'un qui vous défend ce soir ? Vous êtes bien convaincu. Alors regardez comme ça change les choses. Parce que quand quelqu'un s'oppose à vous ou s'attaque à vous, moi je le plains. Il ne sait pas ce qu'il fait. Parce qu'il y en a un qui me défend. Et là, il va voir ce que ça donne. Vous savez, David avait un peu cette attitude. Il ne se mettait pas en avant, il ne se mettait pas en premier. Il disait, le problème, c'est que quelqu'un se moque de Dieu. Et ça, c'est plus grave que tout. À la limite, moi, je disparais, ce n'est pas grave. Mais ça, ce qui est insupportable, c'est qu'on s'élève et on lance un défi au Dieu d'Israël. C'est effectivement le premier temps. Dans les choses cachées qui vont encore se manifester un peu plus loin, c'est qu'il va être présenté à Saül. Et alors franchement, quand vous êtes équipé comme un berger, avec votre tenue de berger, et que vous arrivez et que vous dites « voilà, c'est moi qui vais affronter Goliath », Saül dit « il te manque quelque chose ». Rassurez-vous, quand on veut servir Dieu, il y a toujours des gens pour vous dire ce qui manque. Et il y a aussi des gens pour vous charger. Parce que David, j'ai pas lu le passage, mais vous le connaissez, on l'a chargé. Et Saül l'a notamment chargé. Il dit « non, non, tu ne peux pas aller voir Goliath comme ça. Tu vas prendre ma cuirasse. Boum. Tu vas prendre mes armes. Boum. » Et quand David a eu tout ça, il dit « je ne peux plus bouger. Je ne pourrais pas. Non, je ne suis pas fait pour ça. » Je pense très sincèrement, frères et sœurs, que nous ne sommes pas faits pour utiliser les armes du monde. Elles existent. Le monde a ses manières de se battre, le monde a ses manières d'éliminer, le monde a ses manières de rejeter, c'est évident. Et d'une certaine mesure, c'est très efficace. Mais attention, ce ne sont pas nos armes à nous. Et l'apôtre Paul le dit d'ailleurs, nous ne combattons pas avec les armes de la chair, nous ne combattons pas avec les armes de ce monde. Non, non, nous combattons avec des armes qui sont spirituelles, combattons avec Christ, alléluia. David va quand même montrer à quel point il est lucide. Il dit « David, tu peux pas y arriver dans l'état où tu es. » Alors David va leur dire « Écoutez, il faut vous dire quand même une chose que vous semblez ignorer, c'est que depuis longtemps, j'ai appris à me battre. » Et là, il y a quand même un morceau de choix. Je ne sais pas comment vous lisez. Bien sûr, tout le monde aime bien l'histoire de Goliath, de la fronde et tout. Moi, je trouve que le morceau de choix, c'est ce que David va dire à ce moment-là. « Quand je garde les brebis de mon père, eh bien, figurez-vous, en Israël, c'était tout à fait courant à l'époque, il arrive des moments où le lion et l'ours s'attaquent à une brebis. » Aïe, aïe, aïe. Quand je pense qu'aujourd'hui, il y a des gens... je vais comprendre un sens. Ils se plaignent parce qu'il y a un loup qui vient attaquer. Mais vous vous rendez compte, l'époque de David, vous gardiez des brebis et de temps en temps, le lion qui était le lion d'Atlas, il a disparu maintenant en Israël. Mais à l'époque, des lions particulièrement véloces et rapides arrivaient pour prendre une brebis. Ou alors l'ours. J'ai lu d'ailleurs des commentaires qui m'ont étonné. On dit même que dans les deux animaux, c'est l'ours qui était le plus dangereux. Parce que l'ours a un coup de patte d'une rapidité, d'une dextérité telle qu'il peut surprendre n'importe quel adversaire. Et alors, de temps en temps, David est en train de garder ses brebis, et d'un seul coup, au cri d'une brebis, il dit « ça y est ». Il se retournait, le lion ou l'ours avait pris une brebis. Ça y est, la brebis était prise. Il y a deux solutions dans ces cas-là. Vous dites « aïe, 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 il va encore manquer une brebis, mon père va encore me disputer, oh, quel Seigneur, quel drame, quel désastre, oh, c'est terrible de manquer, d'avoir une brebis de moins. » Ou alors il y a une deuxième solution, c'est celle de David. Quand il prenait une brebis, je courais après lui. Je ne sais pas si vous imaginez la scène d'un berger qui court après un lion ou qui court après un ours. D'habitude, c'est plutôt le contraire, Mais là, c'est ce que dit la Bible. Moi, écoutez, excusez-moi, mais ce n'était pas la parole de Dieu. Vous me direz, t'en inventes un petit peu, t'en rajoutes. Je n'en rajoute pas. Vous avez lu comme moi. Quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, à la fin du verset 34, je courais après lui. Oh, j'ai toujours imaginé la scène de ce berger David qui court après un lion ou un ours. Et il finit par l'attraper. Il courait vite, David. Il le rattrape et il dit... Je le frappe, je le prends au présent, j'arrache la brebis de sa gueule. Est-ce que vous vous imaginez la scène d'un jeune homme qui est en train d'écarter les mâchoires d'un lion pour qu'il lâche la brebis? Vous voyez à sa place? Déjà, essayez de faire ça avec un chien, vous allez voir ce que ça donne. Et lui, David, il y a eu des moments tout seul. Puis alors, il pouvait toujours appeler du secours, il était tout seul. Il fallait donc qu'il réagisse seul. Et il va et il s'accroche au fauve et il lui tord les mâchoires. Finalement, le texte est très clair. j'arrachais la brebis de sa gueule. Moi, ça me laisse un peu, ça me laisse pantois, ce texte. Vous voyez, en train d'arracher une brebis. Moi, je dirais que nous donnons souvent trop de grâce et trop de force à l'adversaire. Parce que quand bien même l'adversaire du troupeau du Seigneur aurait saisi une brebis et essaierait de l'emmener, il faut qu'il y ait des hommes et des femmes qui se lèvent et qui n'hésitent pas à courir et à arracher une brebis à la gueule du lion ou de l'ours. Vous voyez ça ? Et il faut savoir courir vite, il faut savoir s'accrocher. Et puis alors, il y a quand même quelque chose qui est extraordinaire dans ce récit. Une fois qu'il avait arraché la brebis, hop, il attrape la brebis, et il dit, maintenant, tu te sauves, toi, hein ? Va-t'en, je ne veux plus te voir. Non, non, ce n'est pas du tout cela. Il nous dit que s'il se dressait contre moi, parce qu'essayer d'arracher une brebis à un lion, il réagit. À l'ours, c'est pareil. Il revient à la charge. Et s'il se dressait contre moi, eh bien, je le saisissais par la gorge et je le frappais. Alors là, je dois vous avouer qu'il y a des moments où je relis trois fois le texte, mais attends, imagine la scène. Il vient déjà d'arracher de la gueule d'un lion ou d'un ours une brebis. La brebis a été libérée, il la pose en arrière, il ne t'inquiète pas, je suis là. Et le lion et l'ours se retournent, ou l'ours se retourne contre lui. Eh bien, qu'est-ce qui frappe ? Ce n'est pas le lion ou c'est l'ours, c'est David. Or, comme je lui ai dit tout à l'heure, tous les techniciens dans les animaux et autres vous diront, mais ce sont des animaux dangereux, d'une dextérité, d'une rapidité. L'ours est connu pour avoir ce genre de manifestations très rapides et dangereuses au point de terrasser tous ses adversaires. David dit, moi, je le frappais, je le saisissais par la gorge et je le tuais. La victoire de David n'était pas une victoire par-ci, par-là, mais une victoire définitive. Je crois, frères et sœurs, qu'il y a là une grande leçon que donne la parole de Dieu. J'aimerais me rappeler sans cesse qu'à la croix, la victoire du Seigneur n'a pas été partielle. Elle a été totale. Et il dira cette parole extraordinaire, « Tout est accompli ». Le « tout est accompli » dit maintenant, il n'y a rien à ajouter. Il n'y a plus rien à essayer d'ajouter, comme malheureusement je le vois aujourd'hui dans un monde moderne où il y a des prophètes de renom qui se lèvent. Et quand vous les écoutez, ils ajoutent à tout ce que dit la parole de Dieu. Il n'y a rien à ajouter à l'œuvre de Christ. Elle est totale. Elle est parfaite. Tout est accompli. Et je dirais que l'image de David est déjà prophétiquement un symbole de cette victoire, parce que non seulement il arrache la brebis, mais il terrasse le lion et l'ours. Alors je crois que ce qui est extraordinaire dans l'œuvre que nous avons dans le Seigneur Jésus-Christ, c'est qu'il a parfaitement terrassé l'œuvre du diable. C'est vrai que le diable essaye de reprendre la main, il essaye de se manifester, il le fera, je n'en doute pas, mais je veux affirmer, mon Seigneur a remporté la victoire. Et elle est totale. Et ça, David va le dire. Alors, je viens de voir avec vous une espèce de face cachée que ni Saül, ni ses frères d'ailleurs, ne semblaient avoir mesurée et entendue. Il y avait eu un travail de formation. Et la brebis et l'ours servaient pour Dieu à préparer David à rencontrer Goliath. Je crois que ça aussi, c'est une chose que nous ne devons pas oublier. C'est que parfois, j'ai le bonheur de ne pas vous connaître, comme ça je suis tranquille. Dans d'autres assemblées, j'ai connu des chrétiens qui me disent, frère, si vous saviez ce qu'on m'en fait voir dans ma famille inconvertie ou dans mon travail, on m'en fait voir, j'ai vraiment même des combats, c'est difficile et tout. Et ça peut peut-être étonnant, mais je me dis, Seigneur, tu prépares toutes choses de loin. Et il y a des combats personnels où vous étiez tout seul. Vous auriez voulu qu'il y ait un pasteur avec vous, qu'il y ait des frères et sœurs qui prient avec vous. Ben non, vous étiez tout seul. Dieu vous préparait pour avoir une conviction profonde de la puissance de Dieu pour vous aider. Vous apprendrez, vous apprenez avec moi chaque jour à connaître un Dieu qui est capable de vous délivrer. Mais vous pouvez. Ce que je crains le plus de ce genre de phrase, c'est que ça reste de la théorie. Parce que pour que ça devienne de la pratique, eh ben il faut avoir affaire à l'ours, il faut avoir affaire au lion. Et c'est là qu'on apprend. Je veux dire qu'il y a des épreuves. Prêcher que la vie chrétienne est une vie où plus ça va, moins il y a d'épreuves, il y a plus de bénédictions, est une hérésie. C'est un grave dommage fait à la parole de Dieu. La vie chrétienne nous dit qu'il y aura des combats. Et que dans ces combats, Dieu nous les prépare toujours à quelque chose de plus grand. toujours à quelque chose de plus merveilleux. Il y a dans votre vie des chemins que vous n'auriez peut-être pas souhaités. Il y a dans votre vie des chemins que vous n'auriez pas imaginés. Parce que souvent, vous savez, on aime bien les romans où il y a bien sûr du suspense, mais on sait d'avance que ça se terminera à l'eau de rose. Tout bien. Alors, bien sûr, d'un autre côté, vous n'êtes pas loin de la vérité. Moi, je sais que ça va bien se terminer avec le Seigneur. Mais en attendant, il y aura bien des combats. Et personne n'avait vu les combats de David. Personne. Tout le monde ignorait qu'il y avait un jeune berger qui passait par l'école de Dieu. De même que beaucoup de gens peuvent ignorer qu'un chrétien passe par l'école de Dieu, mais Dieu le façonne, Dieu le transforme. Et un jour, sans l'avoir prévu, sans l'avoir, je dirais, avoir eu besoin d'un don spirituel qui l'avertissait, eh bien, David s'est trouvé dans un moment où il s'est retrouvé face à un homme qui défiait le Dieu d'Israël. Au même moment, je voudrais quand même signaler une autre attitude qui est, hélas, très mesurée, mais qui doit nous aider à comprendre bien les choses. C'est que les deux armées étaient en face l'une de l'autre. Il nous est dit que les deux armées s'étaient présentées. Alors, vous savez, en ce temps-là, on s'alignait, on faisait face souvent de deux côtés d'une colline, et on attendait l'ordre d'y aller à la bataille. Alors, tout le monde était là, et pour se donner du courage, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a le petit détail, on criait, on élevait la voix et on criait. Et plus on criait fort, plus on était costaud. Hein. Le problème, c'est que quand Goliath se présentait, on avait beau crier, il n'y avait plus personne. Des jours, quand je regarde dans le texte, il nous est dit que Goliath est venu pendant 40 jours. 40 jours, vous vous rendez compte? On a entendu pendant 40 jours un homme se présenter, et les gars qui avaient crié les minutes d'avant, bien sûr les Philistins, ils pouvaient crier, c'était de leur côté, mais ceux qui avaient crié en face dans l'armée d'Israël, ah, on va gagner, ça me fait penser aux supporters dans un match, vous savez, hein. ils vous crient des choses extraordinaires, ça y est, avant le match, la victoire est déjà gagnée. Alors il y avait des tas de soldats, vraiment formés, hein, qui avaient crié. Et puis quand Goliath arrivait, c'était le silence absolu. Il y avait peut-être, j'ose imaginer qu'il y avait même des coups de coude. Hey, vas-y toi qui es costaud, vas-y. Non, toi, vas-y plutôt. Le problème, c'est qu'il y a des fois comme ça, on se tape du coude, on dit, vas-y toi, t'es un chrétien, tu connais bien, vas-y toi. Non, c'est à toi d'y aller, vas-y. Vous savez, il n'y a rien de plus terrible que quand on commence à se regarder les uns les autres pour dire, vas-y à ma place, alors que au fond, David a compris tout de suite une chose, il a insulté l'Éternel, je me lève. Que Dieu nous donne de pouvoir faire grâce et de nous lever face aux défis. Parce que je dirais que s'il y avait une époque, je l'ai ressenti dans vos moments de prière, dans les sujets, et moi je le ressens tout à fait, vous avez raison, s'il y a bien une époque qui est une époque de défis, c'est aujourd'hui. Je trouve qu'on est né dans une génération extraordinaire. Moi, il y a des fois, je ne sais pas si vous avez entendu autour de vous, je dis, oh là là, ça va de plus en plus mal. Hein. Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est, oh ben, c'est. De mon temps, c'était quand même mieux. Alors, je me méfie quand j'entends les chrétiens prendre le même style. Oh là 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 là, de mon temps, il y a longtemps, là, qu'est-ce que c'était bien. Alors maintenant, oh là là, qu'est-ce que c'est dur, difficile. Là, moi, je me dis, ils n'ont rien compris. Je vis dans une société et une époque extraordinaire. Savez-vous pourquoi? Parce que c'est la société et l'époque dans laquelle le Seigneur m'a fait naître. Elle est extraordinaire. Ce n'est pas moi qui suis extraordinaire, c'est l'époque. Hein. Mais je la considère comme ça. C'est une époque unique. Moi, si le Seigneur m'avait mis au Moyen-Âge, j'aurais eu l'air de quoi? Il fallait que j'arrive maintenant. Et il faut que vous arriviez maintenant, mes amis, frères et sœurs. C'est votre époque, c'est votre génération. Elle est extraordinaire, votre génération, vous ne trouvez pas? Bah, écoutez, prenez-vous comme vous êtes là et transportez-vous en disant « Ah, qu'est-ce que j'aurais été bien en 1914 ?» Vous auriez eu l'air de quoi avec vos smartphones en 1914, dites, hein ? Non, vous êtes fait pour cette génération, là, voilà. Avec vos tablettes, dites donc, et tout ce qui est là ce soir en train de fonctionner. Hein ? On aurait eu l'air de quoi en 1750, au moment de la Révolution française ? Non. Je bénis Dieu, il y a eu des enfants de Dieu pour cette époque-là. Ça a été leur génération. Et figurez-vous qu'en 2020, il y a une génération, c'est une génération extraordinaire, elle était faite pour l'année 2020. Vous ne pouvez pas faire autrement. Que Dieu vous bénisse. Hein. Alors je reviens à David. Lui, il était fait pour sa génération, Goliath. Il va donc se présenter, il va avancer vers le géant Goliath. Et il y a un petit détail qui nous est donné juste avant. Le berger est passé vers les torrents, qui était là, vers le torrent, et il a ramassé ce qu'un berger savait très bien trouver, parce que ça faisait partie de son équipement. Il a mis dans sa poche 5 pierres, et il est parti avec ses 5 pierres, il avait sa fronde de berger, et voilà, il n'avait que ça, mais il l'avait. J'ai entendu beaucoup d'histoires sur les 5 pierres, hein. Je vous dis tout de suite, je ne vais pas m'avancer. Il y a une chose qui me fait plaisir, c'est que David a pris 5 pierres, et il n'en a eu besoin que d'une. C'est quand même intéressant, vous ne trouvez pas ? Figurez-vous que Dieu a mis à votre portée une immense bénédiction extraordinaire et vous n'avez pas besoin de toute la bénédiction, vous avez besoin d'une seule bénédiction à un bon moment et vous serez victorieux. Alléluia. Rassurez-vous, quand vous remportez une grande victoire par la foi, vous n'avez pas épuisé les armes de Dieu, hein. Vous n'avez pas vidé les possibilités de Dieu, il y en avait beaucoup plus. Et j'aime bien la gypsière de David. Elle me rappelle qu'avec une seule pierre, on remporte la victoire, mais qu'on en a encore plein en réserve. Ça ne vous rassure pas, vous ? Hein ? Parce que parfois, j'ai entendu, il y a des témoignages qui m'ont réjoui, je dois vous dire. J'ai entendu vraiment des témoignages où l'œuvre de Dieu était extraordinaire, formidable et tout. Et je me suis dit, mais ce n'est que le début. Il y en a encore beaucoup d'autres dans la puissance de Dieu. Parce que Dieu est le Dieu qui remplit les gypsières et qui n'a pas besoin de tout. Une seule chose suffit. Il y a un homme que j'ai beaucoup aimé, c'est celui qui dit un mot seulement, ne fais pas un discours, dis un mot et mon serviteur sera guéri. Vous ne trouvez pas que c'est quand même extraordinaire ce genre de foi ? Il y a des gens, parfois, ils pensent que c'est à la longueur de la prière que Dieu va se décider à bénir. Au fond, la foi, c'est tellement efficace quand c'est concret, dépouillé, vivant et vrai. Et ça, c'est quelque chose que David m'enseigne aussi. Avec ces 5 pierres, il n'y en avait qu'une qui était la bonne. Alors on peut aussi, bien sûr, gloser et faire des tas de projets sur la manière dont il a lancé la pierre. Il a pris sa fronde, il s'est avancé, mais il a prononcé une parole auparavant qui est très importante. Il a dit « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, avec tes armes. Moi, je marche contre toi avec ma fronde et une pierre. » C'est ce qu'il a dit, David ? Il avait la fronde et la pierre, mais il n'a pas dit ça. Il a dit, moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Voilà, c'est en son nom que je me présente. Et c'est donc Dieu qui va maintenant justifier la chose. Et vous savez, il y a une capacité de David qui a été extraordinaire à ce moment-là. C'est, alors que tous les yeux étaient fixés sur lui, il a fait en sorte que toutes les pensées et les oreilles entendent que ce qui était important, c'est la présence de Dieu dans ce combat. Et ça devait gêner même peut-être beaucoup de gens, parce que Saül lui avait dit « Que Dieu soit avec toi », mais presque pour s'en débarrasser. Maintenant, David affirmait que dans ce combat, il n'y avait pas deux, il y en avait un troisième, c'était Dieu. Et c'était Dieu qui allait déterminer l'issue du combat. Et je dirais qu'il y a une grande leçon à recevoir. Dans toutes nos difficultés, dans nos combats, nous devons veiller à ce que ce soit Dieu qui soit cité comme celui qui est l'intérêt et le centre du combat. Et même si nous sommes heureux de témoigner, on a de très beaux témoignages qu'on entend dans nos églises, c'est formidable, mais je prie de tout mon cœur, et souvent j'invite les gens qui passent par ces genres de choses, et surtout n'oubliez jamais d'une chose, c'est que ce n'est pas ce qui vous arrive qui est le plus important, c'est ce que Dieu a fait. C'est-à-dire qu'on doit retenir, non pas la personne, on doit retenir la puissance de Dieu. Et David a tout travaillé dans ce sens, en disant « Maintenant, moi, je viens au nom de l'Éternel. » Alors, c'est quelque chose qui me rassure, parce que j'ai beau penser qu'il était très doué avec sa fronde, mais je vous dirais franchement, un berger qui agite sa fronde, qui lance la pierre, et la pierre vient se ficher entre les deux yeux dans le front, et elle s'enfonce là, à cet endroit-là, il y a plus que la main de David. Il y a la main de Dieu. Moi, j'y crois totalement, cette histoire de pierre qui vient se loger comme ça et qui terrasse un géant, c'est-à-dire qu'elle a la puissance de pénétrer, d'amener la mort. Mais mes amis, ne vous y trompez pas, ce n'est pas David seulement, c'est Dieu qui se charge de la pierre. Quand la pierre part, c'est Dieu qui l'envoie. Et ça, ça change tout. Dieu se sert de vous, Dieu se sert de nous, mais attention, l'efficacité du service, c'est Dieu qui le donne. De toute manière, c'est la puissance de Dieu qui permet d'atteindre le but. Et je bénis Dieu parce que David m'apprend tout cela au-delà du petit côté extraordinaire. Et vous savez que David avait une foi tout à fait lucide parce qu'avant même d'atteindre le géant, il lui a dit « Aujourd'hui, je te tuerai, je te couperai la tête et je la présenterai en disant, voilà, il n'y a qu'un seul Dieu en Israël, c'est le Dieu que j'ai invoqué. Mes amis, c'est un engagement de foi qu'il fallait mesurer. Parce que dire, je te tuerai alors que, et je te couperai la tête alors que l'autre disait, mais qu'est-ce que tu viens là? Tu es un enfant. Moi qui suis un homme de guerre, tu viens me voir comme un enfant. Qu'est-ce que tu fais là? Je te tuerai, je te couperai la tête. Vous savez, il y a des moments où la foi, ça fait chaud, hein, et ça fait drôle. Mais heureusement que David avait bien préparé en disant, je ne viens pas en mon nom. Ce n'est pas David qui remportera le combat, c'est l'Éternel. Heureusement que David avait dit, quand j'étais seul, eh bien, j'ai appris, et vous remarquerez que le lion et l'ours, David a pu dire, c'est l'Éternel qui m'a donné de délivrer les brebis. Donc, à chaque fois, David mettait Dieu avant dans toutes ses expériences. Cachée est celle qui va devenir publique d'une façon extraordinaire. Permettez-moi de terminer en disant que souvent les hommes se trompent sur les résultats d'un combat et d'une bénédiction. Et je vais revenir sur un passage qui me fait un peu sourire, c'est quand David a dit qu'est-ce qu'on fera à celui qui tuera Goliath. Et alors tout le monde s'est embrasé, oh là, tu sais ce qu'on va faire, le roi lui donnera des richesses, il lui donnera sa fille comme femme. Je ne sais pas très bien si c'est un vrai cadeau, mais ça, c'est une opinion personnelle. Hein. Et puis, il va même amener la liberté à toute sa famille, il la rendra libre. Alors, ils seront des citoyens remarquables qui ne seront plus comme des esclaves, mais ils seront libres. C'est assez étonnant de voir que la seule chose qu'on retenait du défi de Goliath, c'est ce qu'il rapporte. Les richesses, le plaisir, peut-être, et puis la souveraineté, l'élévation sociale. Si vous regardez bien, c'est l'élévation sociale de devenir à l'époque de David quelqu'un de libre, alors qu'avant on est un serviteur esclave. Hein. Bon, je dirais que là, je vais terminer par cela. Il me semble qu'il y a toujours un piège pour tout chrétien. Les victoires de Dieu ne nous élèvent pas socialement. Elles ne font pas de nous des maîtres. Les victoires de Dieu ne sont pas faites pour que nous en bénéficions, nous, largement après. Le renom vient et nous apporte une popularité extraordinaire. Les victoires que Dieu donne ne sont pas non plus des victoires qui doivent nous amener à être dans le plaisir, en quelque sorte, dans l'abondance et dans la facilité. Non. Les victoires, David n'avait retenu qu'une chose. On saura qu'il y a un Dieu en Israël. Et que c'est ce Dieu que tu as insulté. Et on saura que l'Éternel est un Dieu vivant. Eh bien, que Dieu nous aide. Car si nous devons atteindre notre mission, c'est bien de penser et de prononcer cette parole. On saura dans la ville de Toulouse qu'il y a un Dieu vivant. Ça, c'est notre engagement. C'est notre but. On le saura dans l'Aveyron, on le saura dans tous les lieux où Dieu place des chrétiens, même quand ils sont tout seuls dans leur entreprise. On saura qu'il y a un Dieu. Ça, c'est le but à atteindre. Alors, que Dieu nous aide, hein, c'est pas facile. Car quand on commence à s'y prendre un petit peu gauchement, en nous mettant en avant, ça y est, on rate. Ne cherchez pas d'autres explications à des combats perdus. C'est moi, les chrétiens, ils me disent, ouais, vous parlez des chrétiens, des combats victorieux, mais moi, j'en ai pris des claques, et puis j'ai pris des défaites. Je vais vous dire, Dieu nous apprend à enlever notre part à nous, et dans nos échecs, nous apprenons que nous en avons trop fait nous-mêmes. Mais dans nos victoires, nous apprenons que Dieu a tout fait. C'est la différence. Et même dans vos échecs, il y a toujours quelque chose à apprendre. Seigneur, apprends-moi à ne pas me mettre en avant, mais à te mettre en avant. Et tu remporteras la victoire. Amen.